Je vais faire un petit résumé quand même pour qu'on se resitue. Là, ça fait déjà 15 jours. Merci, t'es gentil. Donc, on arrive sur... je vais reprendre un petit peu l'épisode du moment où Élie rebâtit un hôtel. On va reprendre un petit peu ça parce que j'étais passée un peu trop vite et je pense qu'il y avait pas mal de choses à voir là-dessus. Donc un petit résumé sur ce qui s'était passé avant. C'était la troisième année de sécheresse. Et donc ça, c'est le chapitre 18. Hein. La parole de Dieu avait été donnée à Élie que la pluie allait retomber et qu'il fallait qu'il voie le roi Achab. Comme d'habitude, on avait constaté, Élie est toujours extrêmement obéissant. Même s'il sait qu'Akab lui en veut, il y va, malgré sa peur. On avait remarqué qu'il n'est pas comme Jonas, qui cherchait plutôt à s'enfuir. Lui, non, il y va, et il est très courageux. Et on sent toujours cette complicité qu'il a avec Dieu, qui est fantastique. Enfin, plus je relis l'histoire d'Élie, plus je vois cette complicité. On va d'ailleurs en reparler. L'obéissance, mais ce n'est pas l'obéissance servile. C'est vraiment une collaboration, une complicité. On va le voir un petit peu dans la suite aussi, malgré les risques qu'il court. Hein. On a donc différentes scènes au chapitre 18, donc Dieu s'adresse à Élie. Ensuite, on a une petite scène où on voit Achab qui parle à son intendant. De quoi parle notre roi Achab, idolâtre et fragile et caméléon, comme disent certains commentateurs. Il est soucieux, non pas pour le peuple qui meurt de faim, pour les récoltes qui périssent, il est soucieux pour ses mulets et ses chevaux. Curieux, hein. Abdias, lui, son intendant, est un homme de Dieu qui a protégé une centaine de prophètes, il les a cachés, les prophètes de l'Éternel, Dieu d'Israël, et il les a cachés dans deux grottes différentes, et il les a nourris. Donc c'est un homme qui est fidèle à Dieu, mais qui reste quand même au service d'Akab. Akab, lui, est soucieux, évidemment, pour ses affaires à lui, mais pas pour le peuple. Et ça, c'est vraiment triste. Et il demande à son intendant de chercher partout des coins, ou peut-être un petit peu plus sur les versants nord des collines, où il y aurait un petit peu d'herbe, un peu d'eau, pour pas qu'on ait besoin de tuer les chevaux et les mulets. Voilà, une préoccupation importante, certes, mais... Quand même, quand on pense que le peuple entier est en train de mourir de faim et de souffrir de la sécheresse, c'est ennuyeux. D'autant plus qu'Akab connaissait la solution. La solution, ce n'était pas d'aller chercher de l'eau et de l'herbe. La solution, c'était de revenir vers Dieu, d'abandonner l'adoration des Baals et des Astartés. La solution était toute simple, mais il préférait se donner du mal à sillonner le pays et d'envoyer son intendant sillonner le pays pour chercher où on peut avoir un petit peu d'eau encore et un peu d'herbe. C'est dommage, mais ça montre bien notre instinct humain, charnel, dirait l'apôtre Paul, vraiment profondément humain, qui est de trouver des solutions à nous, là où il n'y en a pas, alors que Dieu a une solution, toute simple. Revenez vers moi. Hein, et j'ai pensé, je ne sais pas si je l'ai cité la dernière fois, Jérémie 25 dit ceci, « Ils se sont éloignés de moi, dit l'Éternel, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent, et n'être eux-mêmes que du vent. » Quand on poursuit des choses qui ne sont que du vent, on devient soi-même du vent. C'est très intéressant comme verset, je trouve. Quand on s'éloigne de Dieu et qu'on poursuit des choses de néant, des idoles, des choses qui ne nous apporteront pas grand-chose, rien du tout à long terme et pas grand-chose à court terme, eh bien, on devient soi-même comme du vent. L'Ecclésiaste disait « vanité des vanités ». Tout est vanité, et c'est vrai. Hors Dieu, ben, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment vanité, c'est tout ce qu'on va trouver. Donc, il ne prend pas la solution simple de revenir vers Dieu, c'est dommage. Et il a du souci pour ses petites affaires, ses chevaux, ses mulets. Troisième rencontre, maintenant, c'est entre Élie et l'intendant. Élie rencontre l'intendant et il lui dit, va dire à ton maître, au roi, donc Achab, j'ai trouvé Élie. Et l'autre, je trouve qu'il avait une réaction un peu violente. Hein. Il lui dit, mais tu veux ma mort, quoi. Si je vais dire au roi que tu traînes dans les parages, là, moi, je vais avoir des problèmes. Hein. Il va me tuer parce que Le jour où il va envoyer quelqu'un pour te chercher, tu ne seras plus là. Dieu t'aura envoyé ailleurs. Et c'est là qu'on apprend finalement, par ce biais-là, que c'est bien Dieu qui avait caché Élie. Quand il était à Sarepta, quand il était près du torrent, c'était Dieu qui l'avait envoyé là, ça on le savait, mais pour le cacher, parce qu'Akab voulait le récupérer pour qu'il prononce la parole magique. C'était un peu ça dans le cœur d'Akab, hein, la parole magique qui va ramener la pluie. Hein, c'est presque les danses indiennes pour faire tomber la pluie. Non, la parole d'Élie n'était que celle de Dieu qui était transmise. Et lui, Akab restait sur le plan purement humain. Voilà, il faut qu'il prononce la parole pour que la pluie revienne. Or, c'était une parole de Dieu et Élie ne la prononcera que quand Dieu le voudra. Donc, on apprend aussi que Akab avait été partout, envoyé des émissaires dans toutes les régions pour qu'ils promettent sous serment qu'ils n'avaient pas vu Élie. Donc, avez-vous vu Élie? Non, alors il fallait le promettre sous serment parce qu'il voulait absolument retrouver Élie. Donc, vous voyez, c'était quand même, la situation était sérieuse. Il y a un contexte qui est quand même très lourd avec Akab. Si on regarde le vocabulaire de cette entrevue entre Élie et Abdias, il parle de mettre à mort, il me tuera. Jézabel tuait les prophètes, il me tuera une deuxième fois, répété. Donc vous voyez, il y a quand même une menace de mort qui pèse sur les serviteurs de Dieu, sur Abdias qui a protégé les serviteurs de Dieu, et probablement sur Élie, évidemment, puisque Akab le cherche. Alors Élie va rassurer Abdias et lui dit « Aujourd'hui, je paraîtrai devant Akab ». Il lui promet, donc là, il a confiance dans la parole d'Élie. On ne sait pas comment, mais apparemment, il a pu transmettre le message. Et c'est Akab qui va à la rencontre d'Élie. On avait remarqué la dernière fois, est-ce que c'était par respect? Le roi aurait eu le respect du prophète, ou il avait tellement hâte de revoir la pluie qu'il s'est précipité sur Élie. Et la première chose qu'il va faire, la chose intelligente, ça aurait été de dire « je regrette, on va revenir à l'Éternel ». Non, il accuse Élie d'attirer le malheur sur Israël. Et vous vous souvenez, on avait parlé de tous les endroits, dans toutes les époques, où les chrétiens ont été accusés d'attirer le malheur, d'attirer une malédiction par leur foi en Dieu, en l'Éternel Dieu, Dieu vivant. Et on a eu des récits missionnaires, j'en ai parlé la dernière fois, qui montrent qu'il est facile d'accuser les chrétiens. Néron, hein, c'est pas gêné, hein. Il a mis le feu à Rome, après il a dit c'est les chrétiens qui l'ont fait. C'est l'exemple le plus classique que vous allez retrouver un petit peu partout dans l'histoire, mais Néron était un peu fou, l'empereur romain, donc Néron, avait accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. C'était facile d'accuser les chrétiens. Donc ça reste toujours, hein, dans les pays persécutés, où les chrétiens sont persécutés, c'est pareil, on les accuse volontiers de toutes sortes de choses. Et Akab n'y manque pas, c'est toi qui attires le malheur, alors que il le sait, en plus il le sait, la loi était claire, quand on abandonnait le culte de Dieu et qu'on commençait à adorer des idoles, ça amenait de la stérilité, ça amenait des sécheresses, ça amenait des malédictions sur le pays. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, hein. Si on réfléchit un tout petit peu, chaque fois qu'on voit des gens, quels qu'ils soient, qui commencent à avoir une idole dans leur vie, une priorité folle, une addiction, on dirait aujourd'hui peut-être plus une addiction qu'une idole, mais voilà, ça amène des désastres. Ça amène des désastres. Mais bon, Akab préfère accuser Élie, c'est pas très malin de sa part. Mais Élie se laisse pas accuser, hein. Il lui dit carrément, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur. Il remet la vérité en place. Il ne fait que citer la loi. Et curieusement, Akab ne répond pas. Et Élie va ordonner un rassemblement d'Israël au mont Carmel. Et il l'ordonne vraiment au roi. C'est curieux, hein, il a cette autorité de dire, voilà, rassemblez les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté sur le mont Carmel. Et il précise au passage que ce sont tous les prophètes qui sont entretenus par Jézabel. Ça veut dire que la reine pourvoit au logement et à la nourriture de tous ces gens-là. Visiblement, d'après les commentateurs qui ont été importés de Phénicie, parce que bon, pour trouver 850 prophètes d'idoles en Israël, ça devait être quand même un peu difficile. Et il semblerait qu'elle ait fait venir avec elle tous ces prophètes, adorateurs d'idoles. Et ce que je trouve bizarre ici, c'est que Achab, il obéit. Il obéit. Alors, je me suis posé la question. Il a laissé sa femme massacrer beaucoup de prophètes de l'Éternel. Apparemment, il n'a rien dit. Peut-être il a dit, oh, c'est dommage, je ne sais pas, mais la Bible ne dit pas comment il a réagi. Mais il l'a laissé faire, en tout cas. En tant que roi, il aurait pu défendre les prophètes de son Dieu et de son peuple. Mais bon, il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il obéit aussi facilement? Moi, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce qu'il obéit aussi facilement à Élie? Qui dit, bon, tu vas aller au Mont Carmel, tu ramènes les prophètes, puis là, il va se passer quelque chose, mais il dit pas quoi. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas exactement laquelle est la bonne. Peut-être c'est un peu tout. Déjà, il attend, comme on a dit tout à l'heure, une parole libératrice de la part d'Élie. Il attend la promesse de la pluie. Est-ce qu'ils commencent à être conscients que pendant ces 3 années, les dieux qu'ils adoraient, Baal et Astarté, ils n'ont rien fait pour eux? Voilà, c'est quand même bizarre, surtout Baal, qui était le dieu des nuages, de la foudre, de la pluie, et il n'a rien fait. Donc, est-ce qu'ils commencent à être conscients que finalement, ces dieux, ils les ont laissés mourir pendant 3 ans? Est-ce qu'ils commencent à douter? Visiblement, ça c'est sûr, son cœur est partagé entre adorer Dieu et adorer les Baals. C'est clair. Il a un cœur partagé. Est-ce qu'il pense aussi que finalement, tout seul, Élie, face à 450 prophètes, bon, puisque finalement les autres ne sont pas venus, il n'y a pas de risque, hein. Enfin, vraiment tout seul, là, c'est ridicule. C'est pire que David et Goliath, là, hein. Tout seul en face de tous ces gens-là, pense qu'il n'y a pas de risque. Ou tout simplement, il est prêt à tout pourvu que la pluie tombe. Voilà, c'est un peu toutes les possibilités, peut-être vous en voyez d'autres, mais ça explique que Achab obéit. Et puis il y a le face-à-face le plus important, on en avait parlé la fois dernière. Élie va se retrouver en face des prophètes de Baal et en face du peuple, puisqu'il avait demandé à ce que le peuple vienne aussi. Et dans un premier temps, Élie s'adresse à son peuple. Il ignore dans un premier temps les prophètes de Baal et il dit. J'aime énormément ce verset. Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Alors ça, c'est ma traduction. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible. Je crois que la seconde dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Enfin, le truc est clair, hein. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si on considère qu'il est Dieu, il est Dieu, donc il est tout-puissant, il est créateur, on le suit. Si c'est Baal, suivez-le. Et j'avais parlé la dernière fois du fait que le peuple n'a pas répondu. C'est curieux quand même. Parce qu'il n'a pas envie de répondre. Parce qu'il n'a pas envie de choisir. Élie pourtant pose une question fondamentale pour la vie de toute la nation, pour le peuple, pour le roi et pour chacun en particulier. Et rappelez-vous, je crois que je l'ai cité la dernière fois, c'est la même question que Josué a posée au peuple quelques centaines d'années avant. Chapitre 24 de Josué au verset 15, Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le peuple répond, Jamais nous n'abandonnerons le Seigneur pour servir d'autres dieux. Là, il avait répondu. Alors, c'est la même question qu'il faut se poser, chacun de nous. Parce que le fait est qu'on est humain, on est fragile et on subit énormément les pressions de notre culture. Alors que ce soit notre culture familiale, nationale, notre système éducatif, que ce soit la culture du monde environnant, le spectacle, le monde du spectacle, culture ambiante, les médias, tout ça exerce une pression sur nous. D'ailleurs, c'est tellement fort que demander à des adolescents de s'habiller d'une autre manière ou avec d'autres couleurs pour aller au collège. On essaie de suivre C'est même plus une question de mode, c'est une question d'être pareil que les autres, pas se distinguer des autres, s'habiller de la même façon. Et c'est difficile, on subit des pressions. Alors pour ça, c'est pas grave, les vêtements, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il faut accepter toutes sortes de situations maintenant qui sont tout à fait contre ce que dit la Bible. Mais il faut rien dire, il faut être tolérant. Enfin, on subit les pressions de notre environnement. Et la question qu'il faut se poser, c'est choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Je crois que j'avais développé ça déjà la dernière fois. Et il faut se poser cette question régulièrement. Il faut refaire le point sur nos priorités. Parce qu'en fait, on glisse. Le glissement se fait tout doucement, sans qu'on s'en rende compte. Ah, on dit, ah, ben moi je suis chrétien, j'aime le Seigneur, je prie, je rends grâce à table, je participe à la vie de mon église, etc. Mais le glissement, il se fait sans qu'on s'en aperçoive. Et puis on se retrouve, je sais que je me répète, vous savez très bien que je suis un peu gaga là-dessus, je me répète facilement, mais cette histoire m'a tellement frappée. C'est un pasteur indien que je traduisais quand il venait en France, il est décédé il y a 2 ou 3 ans maintenant. Mais... il avait raconté cette histoire, il aimait beaucoup marcher au bord de la plage en Inde. Et ce jour-là, il y avait un vent terrible. Et du coup, bon, bah, vous savez comment on est quand il y a beaucoup de vent et puis qu'on veut quand même continuer à marcher, on s'arc-boute un petit peu et puis on baisse la tête. Et puis comme il priait, il avait les yeux fermés et il marchait sur le sable. Et puis sans s'en rendre compte, je crois qu'il avait marché 2 ou 3 heures, sans s'en rendre compte, en fait, il avait... doucement viré de bord et s'était retrouvé dans l'autre sens. Il ne s'était pas rendu compte. Et ça lui a beaucoup parlé. Parce que vous savez, on peut très bien marcher, vouloir marcher avec le Seigneur. On est plein de bonne volonté, etc. Mais bon, il y a toutes les pressions du monde, toutes celles que j'ai citées. Et tout doucement, sans s'en rendre compte, on peut complètement se retrouver dans l'autre sens. Ça se fait imperceptiblement. Sur la durée, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il faut se poser régulièrement la question, refaire le point. Qui j'ai choisi aujourd'hui? Qui je veux servir aujourd'hui en premier? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est mes loisirs? Est-ce que c'est toutes sortes de choses qui sont bonnes a priori, mais qui ne sont pas là pour être notre priorité? Le peuple, depuis la mort de Josué, a continué à suivre l'Éternel, mais il intégrait progressivement les fêtes païennes. Oh ben parce que les fêtes, c'est quand même important. Il y a les voisins, les amis. Bon, on intègre tout doucement les fêtes. Et d'ailleurs, je ne donne pas de jugement de valeur sur la chose, mais ce que je m'aperçois en France en ce moment, je m'aperçois que progressivement, les magasins intègrent le ramadan. Je ne dis pas si c'est mal ou bien, c'est commercial de toute façon. Et progressivement, ça fait partie de la culture ambiante, en tout cas en région parisienne. J'ai vu, alors moi je suis contente parce que ça me permet d'acheter de la poudre d'amande pour faire les tartes aux pommes. pas trop cher, etc. Hein, on a quand même des avantages. C'est une période où on peut acheter des dattes et tout ça, des prix raisonnables. Mais ça rentre dans la culture tout doucement. Donc, on peut se mettre à la place des enfants d'Israël. Alors, ils n'avaient pas de supermarché, qui faisait des quinzaines pour le ramadan, mais au niveau du commerce, des échanges, du voisinage, les fêtes païennes prenaient doucement leur place. Je ne crois pas que les enfants d'Israël se sont levés un beau matin en disant « Ouais, on va adorer Baal ». Non, ça s'est fait au travers des fêtes. D'ailleurs, il y a d'autres textes bibliques qui le montrent. Au travers des fêtes, des rassemblements, des bals, des soirées dansantes, voilà. Et tout doucement, c'est rentré. Et vous voyez comment une culture peut être transformée. On le voit en ce moment, comment notre culture, bon, ça n'ira peut-être pas trop loin, j'en sais rien, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais on sent que doucement, bah, on tient compte, c'est peut-être... C'est une forme de tolérance, mais voilà, ça nous montre comment ça peut se passer et comment ça s'est passé entre Josué et quelques centaines d'années plus tard, Élie. Hein, voilà. Alors, on a commencé à intégrer les fêtes, on adorait les Baals, on commençait à adopter des habitudes cananéennes, surtout avec les festins, les rites familiaux, les coutumes commerciales, sociales. Et puis, on va mélanger les rites des deux religions. Et ça s'appelle un syncrétisme. C'est-à-dire qu'on mélange les rites chrétiens et les rites d'autres religions ou des rites païens. Et c'est une idée qui n'est pas moderne. Le Nouvel Âge l'a développée ces derniers 100 ans, on va dire en gros. Mais c'est une vieille idée. Les enfants d'Israël ont fait ça au temps des juges, ils ont commencé. Dès la mort de Josué, ils ont commencé. Bah, finalement, ça se passe très bien. On fait les deux. Et pourtant, Jésus a dit très clairement, on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir deux maîtres. Et j'aime bien ce chant hein, qu'on chantait autrefois, c'est un vieux chant maintenant. On ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trempé. Un jour, il faudra bien l'admettre. Un jour, il faut décider. Et depuis 200 ans, toutes les églises chrétiennes ont fait des compromis de la même façon. Le peuple celte, par exemple. Alors, vous le savez, puisque juste il y a un menhir à côté, là, à Elisabethville. Hein. Le peuple celte voulait garder ses menhirs. Alors, les missionnaires chrétiens, ah, c'est embêtant quand même, adoration des idoles, alors je ne sais pas, tout Atis ou je ne sais quoi, si vous lisez Astérix. Ils voulaient garder leur menhir. Mais comment faire? On ne peut pas leur enlever leur menhir. En plus, c'est lourd, hein, ce n'est pas facile à déplacer. Mettre en pièce un menhir, ça ne devait pas être évident. Donc, ils ont trouvé la solution. On a mis des croix dessus. On a christianisé les menhirs. On a rasé les temples païens, romains, en l'occurrence, en France. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des églises dessus. Et maintenant, de temps en temps, on s'aperçoit que sous certains sanctuaires ou certaines églises, certaines chapelles, s'il y a eu un accident, on est obligé de détruire ou de creuser, on retrouve un temple païen en dessous. Alors bon, tout doucement, on glisse. Et puis, il y avait un gros problème dans le christianisme. Il y avait un gros problème parce que quand on était romain, on pouvait adorer... Junon, Vénus, Diane, Mais dans la religion chrétienne, il y avait Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la Trinité. Bon. Mais, et les femmes? Les femmes, les mamans, les grands-mères, les femmes qui comprennent, qui sont maternelles, etc. Mais ils n'ont pas aperçu que Dieu était clairement un père avec un cœur de mère. Et qu'il a ce cœur. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui le montrent, et particulièrement un verset d'Ésaïe, je crois, où il parle de Dieu qui prend son fils sur ses genoux comme une mère, etc. Mais bon, si on ne lit pas la Bible, évidemment, on ne peut pas le savoir. Et donc, il fallait une mère. Et comme la religion romaine avait déjà des scènes de nativité, il y en a une d'ailleurs au musée de Saint-Germain, je pensais que c'était Moyen-Âge, mais non, c'est du temps des Romains. Eh bien, on s'est dit, mais alors, dans la religion chrétienne, il y a Marie, la mère de Jésus, puis il y a les saintes femmes qui ont suivi Jésus, toutes ces saintes femmes de la Bible. Et on a commencé à adorer Marie, à adorer, parce qu'il y avait ce besoin humain. Mais on a oublié que Dieu avait un cœur de mère. Combien de passages dans la Bible, un jour, il faudrait qu'on puisse les revoir, où on voit comment Dieu prend soin de ses enfants comme une mère. Hein, si mon père et ma mère m'abandonnaient, etc., une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait, mais moi, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Enfin, vraiment, il y a ce qu'il faut. Hein, on trouve ça dans Dieu, en Dieu. Mais bon, il y avait ce besoin d'une mère. On a commencé à idolâtrer cette pauvre Marie, qui était une femme remarquable, un exemple, mais voilà, on en a fait une idole. Et puis, il y avait un autre problème. Les Romains, ils avaient les pénates, ils avaient tous les dieux. Alors, tous celles qui ont fait du latin, là, hein, vous devez vous rappeler de ça, les dieux lard, les pénates, etc. Et ils avaient des amulettes, des petits trucs qu'on portait pour se protéger, des porte-bonheur. Oui, mais dans la religion chrétienne, il n'y avait pas ça. Alors, on a commencé à faire des médailles. Alors, d'abord, ça a été des bouts de squelettes, de saints qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont consacré leur vie à servir Dieu. Alors on récupérait des bouts de leurs os. Ou voilà. Et puis on en a malheureusement encore beaucoup qui tournent. J'ai même entendu hier à la cérémonie du couronnement que alors le pape avait donné à la cour d'Angleterre un bout de la croix de Jésus pour mettre dans le sceptre. Voilà, ils l'ont porté hier pendant le couronnement. Enfin, vous voyez jusqu'où ça va. On fait, voilà, parce que on a besoin de se rattacher à des choses. Mais c'est humain. On va pas, on se moque pas, on critique pas. C'est humain, ce besoin de se rattacher à. Oh là là. Bon, heureusement, j'ai mon trèfle à quatre feuilles ou j'ai des petites amulettes, etc. Dieu est celui qui nous protège. Pas les amulettes, quelles qu'elles soient, chrétiennes ou païennes. Donc, vous voyez, il y avait toujours cette envie de mélanger les cultes païens avec les cultes chrétiens. Ah ben, les chrétiens, ils n'ont pas... Alors, maintenant, ils ont des médailles. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais quand j'étais petite, la plupart des conducteurs de voitures, des gens qui faisaient des longs trajets en voiture, etc., avaient une médaille de Saint-Christophe à leur clé de voiture. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais voilà. Je me disais, mais en quoi ce bout de métal peut protéger un conducteur, surtout s'il roule trop vite ou s'il brûle les feux rouges. Mais bon, Dieu est notre protecteur. Reprenons le psaume 23, psaume 90. Alors, on n'est pas à l'abri. Donc, c'est pour ça qu'on peut vite juger hein, l'idolâtrie d'Israël. Ouf, mais on n'est pas à l'abri. On n'est jamais à l'abri parce qu'on est humain. Et vous savez, même nous, évangéliques, on essaie de se rapprocher de la parole de Dieu, on essaie d'être fidèle à ce que dit la Bible. Ouf, on est en danger aussi, hein ? La recherche de spectaculaires, de miracles, de prophéties qui nous caressent dans le sens du poil, c'est pas forcément une très bonne chose. Les diseuses de bonne aventure font ça aussi. Donc attention. C'est pour ça qu'Israël ne répond pas cette fois-ci. Parce qu'en fait, il a envie de garder les deux. C'est tellement pratique. Il sacrifiait tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Oh, mais on n'abandonne pas Dieu. Oh non. Regardez, la semaine dernière, on a fait un sacrifice pour l'Éternel, Dieu d'Israël. Mais oui, on l'a fait. Mais aujourd'hui, vous faites quoi, là? Pourquoi eux, ils ont sacrifié leur fils aîné sur l'autel de Baal? Ils ne veulent pas rompre avec leur Dieu, mais ils penchent pour les séductions du culte de Baal. D'autant plus qu'il était courant à l'époque d'adorer plusieurs dieux, même les païens. Ils adoraient Baal, ils adoraient Astarté, puis tout un tas d'autres dieux de la Mésopotamie, etc. Donc voilà, pourquoi pas faire les deux, hein ? L'autre gros problème d'Israël, c'est que, je l'avais cité la dernière fois, le passé glorieux et miraculeux et les loin derrière. La sortie d'Égypte. Combien d'années ? 800 ans ? Le passage du Jourdain, Jéricho, Gédéon, même les juges, Déborah, même le deuxième roi, David et Goliath. C'est quand même 200 ans qui sont passés. C'est loin. Ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas d'expérience personnelle. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu ce côté miraculeux. Et ça, c'est important. Non pas à cause du miracle, mais c'est important à cause de l'expérience personnelle. Le but de Dieu et donc celui d'Élie, c'est de ramener le peuple à son Dieu. Après cette épreuve de sécheresse, où Baal n'a rien pu faire pour eux, Dieu est prêt à se révéler une nouvelle fois à son peuple. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le miracle qui s'est produit. Avant la bénédiction de la pluie, Dieu va leur prouver, un, le néant des dieux païens. Vanité, néant, inanité. Il va leur révéler sa présence et sa puissance par le feu et montrer ensuite le jugement des coupables. Ces faux prophètes qui laissent croire aux gens que s'ils sacrifient leurs gamins sur un autel, ils auront des tas de belles choses, de prospérité, etc. Alors ils pourront abandonner leurs idoles, retourner vers Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas « j'ai eu tort, j'ai mal fait », c'est que je reviens vers Dieu. Et là, ils pourront choisir. Donc ça, c'est le programme d'Élie maintenant. Prouver le néant des dieux païens, révéler la présence et la puissance de l'éternel Dieu et montrer le jugement des coupables. Alors, ils pourront choisir et la pluie pourra revenir. Alors, le problème, c'est que Élie, il est tout seul. Moi, je l'admire. Hein, face à Achab, déjà, le roi, face au peuple, qui a envie de garder les deux, qui n'a pas du tout envie de se laisser faire. La preuve, il n'a pas répondu. Et puis... 400, vous imaginez 450 prophètes de Baal, c'est un petit village. La seule différence, c'est que lui, il connaît son Dieu. Et c'est là que j'admire Élie, cette collaboration qu'il a avec Dieu. Alors, on va lire les versets 22 à 29. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. » Il exagère un peu là. « Et il y a 450 prophètes de Baal. » En tout cas, il était seul devant les prophètes de Baal. « Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux, le place sur le bois, classique, sans y mettre le feu. » Ça, c'est important. « De mon côté, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. » Il insiste. « Puis faites appel au nom de votre Dieu. » Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et là, le peuple est d'accord. Il répond, très bien. Ah, c'est bon. Ils ont compris ce qui va se passer. Donc, c'est assez facile en résumé. Hein, les règles de la confrontation sont simples. Élie d'un côté, les prophètes de Baal de l'autre. Puis il y a Cap qui regarde. Il y a le choix du taureau. On le tue, on le découpe, on le pose sur le bois. On ne met pas le feu, ni l'un ni l'autre. Et on invoque chacun son Dieu. Et ils disent, bon, bah, le vrai Dieu, c'est celui qui répondra. Il s'agit là, pour un côté comme pour l'autre, d'un sacrifice assez classique. Il n'y a rien de particulier. Hein. Sauf que, enfin à l'époque, hein, sauf que le feu n'est pas mis par l'homme, mais par Dieu. Alors, sachant que Baal était le dieu de la foudre, ça ne devait pas être un problème pour lui. Hein. Du tout moins, c'est ce qu'il croyait. Il est clair que Élie était inspiré par Dieu et qu'il ne sortait pas ça de sa tête. Ça, il faut peut-être penser à ça. Parce que vous dire, oh ben moi aussi, je pourrais faire des choses comme ça, faire quelque chose de particulier, puis invoquer Dieu pour qu'il se révèle à mes amis ou à ma famille. Attention, ce n'est pas Élie qui avait concocté ça dans sa tête. C'est Dieu qui lui avait clairement demandé. Parce que c'était de la folie, hein, franchement. Et puis, c'est si risqué de tordre le bras de Dieu. Vous savez, moi, j'ai vu des chrétiens, malheureusement, qui ont tordu le bras de Dieu comme ça. « Seigneur, je vais faire ça et ça, et toi, tu fais ça. » Parce que ça a marché pour un tel ou ça. Attention. Rappelez-vous, Jésus, dans le désert, au moment de la tentation, « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » On va retrouver ça dans Exode 17, 7. Ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Seigneur, le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Provoquer. Alors n'essayez pas de faire quelque chose comme ça pour montrer à vos amis, vos collègues, votre famille que Dieu est Dieu et qu'il est tout puissant et qu'il peut intervenir miraculeusement. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si c'est l'idée de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne l'est pas, vous savez, on ne tord pas le bras de Dieu. Donc il faut faire attention. Hein. Je me rappelle de cette histoire très triste des jeunes filles qui étaient à un rassemblement chrétien, je crois que c'était en Corée, et qui avait décidé par la foi de traverser un torrent parce qu'il y avait eu des inondations, il y a eu des grosses pluies. Elles avaient voulu traverser le torrent. Dieu est avec nous, on s'en va à des réunions chrétiennes, Dieu nous protège. Et malheureusement, elles se sont noyées. Donc je crois que, voilà, il faut être prudent de ne pas tenter l'Éternel Dieu. Parce que c'est une façon de lui tordre le bras, c'est quand même un manque de respect. Seigneur, tu vas faire ça parce que j'ai décidé. Oh. C'est pour ta gloire, Seigneur, mais j'ai décidé. Attention. Alors, ce genre de test ne peut être fait que s'il est vraiment inspiré par Dieu. Et c'était le cas ici. Sinon, ça devient une provocation et un manque de respect envers Dieu. Donc, vous savez, vous connaissez peut-être tous l'histoire de notre écrivain. Ce n'est pas mon écrivain favori, mais Simone de Beauvoir. Je suis très à la mode quand je faisais mes études. Simone de Beauvoir, à 15 ans, 16 ans, je crois, avait fait le test. Vous imaginez l'orgueil. Elle avait pris une montre, elle avait dit « Seigneur, Dieu, si tu existes, tu as une demi-heure pour te manifester. » Je ne sais pas si c'était une demi-heure ou moins, mais enfin, en gros. Et voilà, et elle a attendu. Il ne s'est rien passé. Donc Dieu n'existe pas. Pouh ! Dieu, le créateur de l'univers. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un manque de respect, ça, quand même ? Si Dieu est Dieu, vous croyez que, voilà, il va réagir comme ça. Alors attention, Élie, donc, devant les prêtres, il les laisse choisir les premiers. Il est grand seigneur, hein. Messieurs les Anglais tiraient les premiers. Il leur laisse le temps jusqu'à midi, donc c'était tôt le matin, hein, parce qu'ils se levaient tôt hein, dans ce temps-là. Il leur laisse jusqu'à midi. Et puis, il va même, et là, je trouve que c'est un petit peu, il exagère un peu quand même, mais il va un peu se moquer d'eux en disant, mais votre Dieu, il dort, il voyage. Enfin, je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Parce que bon, ils pensaient aussi que leur Dieu voyageait, dormait, mangeait, se disputait. Enfin voilà, ils avaient... les dieux étaient faits à l'image de l'homme. Hein. Et j'insiste là-dessus, parce que parfois les gens nous disent, votre Dieu, c'est votre imagination qui l'a créé. Ah ben, je vois pas l'imagination humaine créer un Dieu patient, bon, etc. Où il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Hein. On ne peut pas. Par contre, les dieux païens, c'est facile. Hein. Les dieux romains, ils se disputent. Les dieux mésopotamiens, ils se mangeaient même entre eux. Ils faisaient l'anthropophagie. Ça, c'est facile parce que finalement, ils reproduisent les passions humaines, les difficultés humaines. Mais Dieu, bah, combien de fois on se dit « Oh là là, comment Dieu il fait ça ?» Moi, bon, on n'a jamais vu un humain qui est capable de faire ça. Voilà. Et le peuple d'Israël, avoir un Dieu qui les corrige, qui les reprend, bon, quitte à inventer un Dieu qui vous caresse dans le sens du poil quand même, hein, franchement. Non, c'est là qu'on voit la différence. La plupart des dieux qui sont créés par l'imagination humaine, ben, ils sont un peu comme nous, en pire ou en mieux dans certains domaines. Par contre, Dieu, il est vraiment, vraiment surprenant. Vraiment, quelqu'un l'a défini comme étant tout autre. Tout autre dans sa façon de voir, dans sa façon de raisonner, dans sa façon d'aimer, dans sa façon de pardonner. Tout autre. Et là, pour moi, c'est un signe d'authenticité de la foi. Si Dieu était comme Jupiter ou, je sais pas, Toutatis ou ce que vous voulez, je dis, bon, mais là, non, il est tout autre. Donc, il les laisse choisir, il attend, mais j'aime beaucoup le verset qui dit « Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » C'est clair. Rien. Vanité, néant, le vide. Alors, on va lire maintenant du verset 30 à 40. Voilà. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Parce que là, maintenant, c'est lui qui va intervenir. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Très important. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ». Avec ces pierres, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le tout en morceaux, le plaça sur le bois, classique. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois ». Il dit « Faites-le une deuxième fois ». Ils le firent une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois ». Ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit d'eau le fossé. Alors, plusieurs points sont importants dans ce texte que j'ai pas pu voir la dernière fois, mais qui sont extrêmement importants. D'abord, il fait approcher le peuple. Il veut associer le peuple à ce qu'il va faire. Plus près de lui, plus avec lui. Là, ce n'est pas un spectacle. Il veut vraiment que le peuple s'approche. Bon, c'était les représentants du peuple, hein, certainement. Et puis, la première chose qu'il fait, c'est qu'il restaure l'autel qui avait été rasé. Bien sûr, il l'avait rasé, vous vous rendez compte quand même. On le trouve dans un autre texte. L'autel avait été rasé. Donc, il le reconstruit. Et il ne le reconstruit pas n'importe comment, il prend 12 pierres. Et le texte explique, 12 pierres, c'est clair, à cause des fils de Jacob. Des 12 fils de Jacob. Alors, ça vous semble normal, mais non, ce n'est pas normal. On est en Samarie, il n'y a que 10 tribus là-haut. Les deux autres, Judas et Benjamin, sont au sud. Mais pour lui, Israël, c'est Israël. Divisé ou pas divisé, c'est toujours Israël au nom de... selon le Seigneur, et l'autel à Dieu, c'est avec les 12 pierres, le peuple uni, même s'il est divisé à ce moment-là. C'est intéressant. Il rappelle bien les origines du peuple. Le peuple d'Israël a répondu à un appel de Dieu, et nous aussi, on a répondu à un appel de Dieu. Il faut se rappeler de notre appel. Un jour, le Seigneur nous a appelés. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Être chrétien, c'est la réponse à un appel. C'est pas « bon, ben voilà, je pense que c'est bien d'être chrétien, ça peut être intéressant, quand on prie, Dieu peut nous répondre. » Mais ça répond à un appel. Alors, il fait un fossé tout autour, on peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est justement pour que l'eau puisse être autour de l'autel. Donc le sacrifice classique, le bois, le taureau découpé, déposé sur le bois, etc. Et lui, il va pas y mettre le feu, évidemment, mais il va faire le contraire. Il va mettre 3 fois 4 cruches d'eau. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait 12 d'ailleurs aussi. Et tout l'autel est recouvert d'eau et le fossé autour. Donc il n'y a pas de tricherie possible. Je vous avais dit, je crois, la dernière fois, qu'il y avait des cas où les païens avaient des systèmes de tuyaux pour amener de la fumée autour des autels pour impressionner le peuple. Donc les archéologues ont retrouvé ça. Donc là, il n'y avait pas de tricherie possible. Ou Dieu est Dieu, ou il ne l'est pas. Et ça, c'est important. Il a une telle connaissance de son Dieu, Élie, une telle confiance, qu'il peut même se permettre de mettre de l'eau sur le sacrifice. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il n'y a pas d'erreur possible. Seul un Dieu vivant et puissant peut renverser toutes ces impossibilités-là. Et je pense que lui, Élie, il a encore présent à l'esprit les plaies d'Égypte. Gédéon. Souvenez, Gédéon, Dieu avait fait pareil avec Gédéon. Alors bon, Gédéon, c'est quand même quelques centaines d'années avant. Et Dieu lui avait dit, « Ah, oh, mais tu as trop de monde là dans ton armée pour aller battre les Madianites. Allez, il faut en enlever une partie. Puis il y a un premier test. » Puis, ah non, là c'est encore trop. Et il y a eu un deuxième test. Et on a fait partir d'abord tous ceux qui avaient peur, tous ceux qui venaient de se marier, tous ceux qui avaient d'autres préoccupations. Puis après, ben, c'était tous ceux qui pliaient le genou pour boire, etc. Enfin, il y avait une façon de trier. Et donc, Dieu a rendu la victoire impossible. 350 personnes devant une armée madianite, faut pas exagérer quand même, hein. Mais il y a des moments où on est dans des situations impossibles. Ça arrive de temps en temps dans la vie, pas tout le temps, heureusement. Mais pour les plus jeunes, vous allez forcément vous trouver dans des situations bouchées, des cul-de-sac, il n'y a rien à faire. C'est une situation impossible. Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette situation impossible? Moi, je suis du genre à dire pourquoi, mais on ne devrait peut-être pas. Mais voilà, c'est Dieu le fait. Il nous met parfois dans des situations sans issue, des situations impossibles, situations de travail, n'importe. Et alors on se dit, mais vraiment, comme Gédéon, 350 pour battre une armée. Alors tu m'appelles, tu m'envoies battre une armée et tu me supprimes. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé le pourcentage, mais peut-être 80% de mon armée ou 90%. Puis tu veux que maintenant, avec 350, j'aille battre une armée. Ben, c'était pareil. Là, il a dit, mets de l'eau. Je ne pense pas que ce soit l'idée d'Élie. Là, c'est pareil. Je crois que c'était clairement Dieu qui l'inspirait. Il n'y aura pas de triche où Dieu est Dieu ou il ne l'est pas. Bon. Et ça, pour Gédéon, ça avait marché, évidemment, là aussi, parce que Dieu, notre Dieu, il rend possible ce qui est impossible. Alors attention, on ne va pas faire exprès de compliquer une situation, volontairement. Hein? C'est pas le message de ce texte. Mais la puissance de Dieu renverse les obstacles. Elle peut même changer la disposition des cœurs. Moi, j'ai eu des témoignages intéressants, par exemple au niveau de l'emploi. La personne qui va se présenter pour un entretien, pour un emploi, et puis ça ne se passe pas très bien, et puis la personne visiblement en face ne veut pas les prendre. Veut pas le prendre, bon. Puis bon, il prie, Seigneur, j'ai besoin de ce travail. Et contre toute attente, la personne est embauchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Dieu est capable de changer la disposition des cœurs. Bon, si vous ne révisez pas vos examens, ne demandez pas à Dieu de vous aider si vous ne faites rien du tout. Hein, ce n'est pas la peine. Parce que Dieu, ce n'est pas une marionnette, ce n'est pas un distributeur de canettes de coca. Mais si vous faites bien votre travail, Dieu est capable de changer les circonstances, de vous donner sa faveur pour les examens, pour les entretiens d'embauche, pour tout ça. Je me souviens quand on a dû acheter notre maison. Le terrain, en tout cas, au début, le propriétaire nous avait envoyé promener vertement, parce qu'on avait demandé une baisse de prix, évidemment. Et on s'est dit, bon, bah, on ne l'aura peut-être pas, tant pis. Et puis, je me souviens de l'entretien. Moi, j'étais allée prier dans le bureau pendant qu'André recevait le propriétaire. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit, oh là là, je ne sais pas si c'était 10 minutes, ça a tout cassé. Oh! Je dis, oh là là, moi je me prépare à prier pendant une demi-heure. Hein. Et je me suis dit, c'est fichu là. Et André m'a fait un peu marcher naturellement. Mais en fait, il avait accepté et lui-même avait proposé la diminution qu'on avait proposée. Là, on savait que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'on était prêt à baisser les bras. Et je crois que Dieu est capable de changer la disposition des cœurs. Il est capable de changer les circonstances. Rappelez-vous, je crois que la dernière fois, on a parlé de l'histoire de Joseph. C'est la gloire de Dieu qui va se révéler dans ces cas-là. Parce qu'on ne peut pas se dire, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intelligence, à mes forces, etc. C'est la gloire de Dieu qui se révèle, car personne d'autre ne pourrait faire ce que Dieu fait. Alors Élie, bien sûr, lui, il ne va pas crier, il ne fait pas de spectacle comme les autres. Il ne fait pas de danse, il ne se fait pas d'incision pour couler le sang comme ont fait les adorateurs de Baal. Il prie simplement, c'est l'heure de l'offrande du soir chez les Juifs. Et ce que j'aime bien, c'est ce qui est écrit, quel est le but de l'intervention miraculeuse de Dieu. Je pense qu'il faudrait me donner la suite. Voilà. Au moment de la présentation de l'offrande, donc c'est le verset 30 à 40, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, alors premier point, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Vous voyez, j'ai pas rêvé. J'ai fait tout cela sur ton ordre. Ça sortait pas de sa petite tête. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et ça, c'est important. Quand on demande une intervention miraculeuse de Dieu, et il en fait des interventions miraculeuses, attention à notre motivation. C'est pour que j'ai l'air bien, c'est pour que les gens me respectent, c'est pour que si c'est bon. Non. C'est pour que le peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. C'est tout centré sur Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. À partir du moment où ça devient la gloire d'un homme, il y a problème. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, c'est-à-dire la bête, le bois, les pierres, la terre, il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ah, ouf! Alors, évidemment, emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, chacun qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Ils s'emparèrent d'eux, les firent descendre au bord du torrent, où il les égorgea. Ça, c'est un peu gore, je suis d'accord. C'est une autre époque. C'était une époque où on agissait un peu brutalement, violemment. Ceci étant, je vous rappelle que pour des infanticides, des gens qui étaient capables d'égorger des bébés sur des autels ou de jeter des petits-enfants dans du feu au pied de leur statue, la loi aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ce serait la peine de mort. Hein, faut pas l'oublier. Et la Bible est très précise dans ce domaine où elle dit que Dieu ne supporte pas qu'on tue des enfants en sacrifice. Donc il ne faut jamais oublier ça, sinon on a l'impression « Ah, quelle cruauté, quelle horreur !» Bon, maintenant on n'agit plus comme ça, on met les gens en prison, dans certains états c'est la peine de mort, mais voilà, je pense qu'on souhaiterait plutôt la peine de mort pour des gens qui tuent des bébés, des petits-enfants, les jeter dans le feu, etc. C'était quand même d'une cruauté incroyable. Le contexte est différent, c'était il y a presque 3000 ans. Voilà, donc un petit rappel, le signe miraculeux, il n'est pas là pour le spectacle. Ne cherchons jamais un signe miraculeux pour voir. C'est vrai qu'on a tous envie de voir des miracles, hein, je veux dire, on est tous pareils, mais attention, ce n'est pas le but du miracle. Le miracle, il est là, non pas pour prouver une supériorité d'une église sur une autre, ou d'une doctrine sur une autre, ou pour faire du spectacle. Il est là pour redonner à Dieu sa place dans le cœur des gens. Redonner à Dieu sa place. Pour dire, mais vous voyez, Dieu agit. Pourquoi Jésus faisait beaucoup de miracles? Parce que ça permettait aux gens de dire, oh, c'est lui le Messie. Qu'est-ce qu'il avait répondu quand Jean-Baptiste commençait dans sa prison à avoir des doutes? Et ils viennent voir Jésus, les disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que c'est vraiment toi, celui qui devait venir? C'est toi? Et Jésus, ben, regardez, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés. Hein, c'était le signe qu'il était le Messie. Donc, redonner à Dieu sa place. Montrer la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez, Élie a bien précisé, j'ai fait tout cela sur ton ordre. C'était la parole de Dieu, et pas monsieur, le grand monsieur Élie. Et pour que tous voient qu'Élie est un serviteur obéissant, et non pas le grand maître, un instrument utilisé par Dieu. Alors le feu est un signe de jugement dans la Bible et il inspire la crainte de l'Éternel. Le peuple a été trompé par des faux prophètes, donc ces prophètes vont être exécutés. C'était la loi aussi. Maintenant, Élie va pouvoir prier pour la pluie et personne ne pourra attribuer ça à Baal. Et c'est ça l'important. Donc on va lire versets 41-46. Élie dit à Acab, « Monte manger et boire. » Donc apparemment, il avait jeûné, Élie. « Car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Alors là, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y avait déjà du tonnerre? Est-ce que c'était dans le cœur et dans la tête d'Élie qu'il entendait que la pluie allait arriver? Acab monta manger et boire. Donc il obéit bien à Élie, là, attention. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, donc la montagne où avait eu lieu le sacrifice, et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis c'était un geste de prière. J'ai vérifié. Beaucoup de gens priaient en se recroquevillant, mettant le visage entre les genoux. Puis il dit, t'es souple quand même, hein. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Alors j'aime bien ce texte. Avec mes parents, on l'a souvent cité. Le serviteur monte, regarde et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, rendez-vous compte, 7 fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer, il est de la taille d'une paume de main. Élie dit, monte dira à Acab, attelle ton char, descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jézreel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jézreel. Alors là, il y a plusieurs choses. Acab obéit à Élie. Je pense qu'il est sous le choc, hein. Peut-être il avait jeûné. Élie, lui, y monte prier. Il entend ce grondement qui lui fait penser à la pluie. Il a la promesse de Dieu qui était « J'enverrai la pluie sur la terre hein, », c'était le premier verset du chapitre 18. Il envoie le roi manger et boire, mais lui prie. Et il prie avec insistance au sommet de la montagne pour que la pluie tombe. Alors là, il y a quand même un problème. Chapitre 18, verset 1, « Dieu promet la pluie bon, ». Alors moi, franchement, à la place d'Élie, j'aurais pas été compliquée, j'aurais dit « Merci Seigneur ». Mais il va prier, Élie. Alors là, ça pose quand même question. Pourquoi prier puisque Dieu avait promis? Ah. Pourquoi prier puisque Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir? Alors ça rejoint ce que disent souvent des gens, et je me souviens de quelqu'un de sympa qui dit « Mais pourquoi vous priez tout le temps? Pourquoi vous priez tout le temps? Dieu, il n'est pas sourd, il n'a pas besoin qu'on lui répète les choses. Pourquoi prier si longtemps? Pourquoi répéter des prières? C'est ridicule. Bon, c'est pas rationnel. Hein. Dieu, si Dieu est Dieu, il n'est pas sourd, c'est clair. Alors pourquoi prier? Mais franchement, pourquoi est-ce qu'Élie se met en boule là et prie? Alors que Dieu lui avait dit, la pluie va tomber. Alors ça, c'est le problème de tous les chrétiens. On ne sait pas exactement, mais on peut comprendre. C'est-à-dire quand je prie sur une parole de Dieu, il a promis quelque chose. Est-ce que je vais rester passif et attendre que ça dégringole? Ou est-ce que je m'associe quelque part dans la prière avec Dieu? Seigneur, tu as promis la pluie. Maintenant, envoie-la, c'est le moment. Seigneur, s'il te plaît, envoie la pluie. Ça accentue, alors ça a plusieurs avantages. L'humilité déjà. Je ne suis pas le grand Élie qui a dit « il va pleuvoir et je ne bouge pas et j'attends que Dieu se manifeste ». Humilité, je prie, je vais voir le Seigneur. Un autre avantage, c'est la collaboration. Dieu veut qu'on collabore avec lui. Et la prière, c'est une forme de collaboration avec Dieu. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il pourrait bien le faire sans nous. D'abord, il pourrait tout faire sans nous. Alors bon, déjà, Et de deux, pourquoi prier sur un truc qu'il a promis? Parce que, donc, il y a le problème de l'humidité et la collaboration. Je collabore avec Dieu. Je prie sa parole. Seigneur, tu as dit qu'il va pleuvoir. Alors maintenant, vas-y, Seigneur, j'attends après toi. Obéissance aussi. Imaginez que la Bible ose dire « prier sans cesse ». Si on n'aime pas prier, il y a un souci. Prier sans cesse. Alors, on n'a pas forcément besoin de se mettre à genoux, ou bien comme Élie, je ne sais pas si vous avez essayé, je suis sûre que les filles arriveraient très bien, là, les gymnastes, à mettre la tête entre les genoux, mais bon, c'est pas ça. C'est dans notre cœur, prier sans cesse. Vous voyez une situation difficile, vous voyez des gens en difficulté, dans notre cœur, Seigneur, fais quelque chose pour cette personne. C'est pas un hasard si tu m'as mis sur sa route. Montre-moi ce que je dois lui dire, ce que je dois faire pour l'aider. On peut prier n'importe où, n'importe quand. Je vous recommande les voitures, c'est génial. Fermez pas les yeux quand même. Mais c'est vrai que dans la voiture, on est tranquille. C'est super. Moi, j'avais plusieurs trajets pour conduire les enfants à l'école. Qu'est-ce que j'ai pu prier dans ces trajets? Super. J'avais entre 10 et 15 minutes, suivant les embouteillages. Ah, c'était génial, je pouvais prier. Je pouvais prier tout haut, je pouvais pleurer, je pouvais crier à Dieu. Alors maintenant, c'est encore mieux parce que les gens pensent que vous êtes sur votre téléphone, donc vous pouvez y aller. Là, je me disais parfois, les gens pensaient que je suis dingue, mais bon. Maintenant, on peut le faire, ils pensent que vous parlez à quelqu'un au téléphone, donc c'est parfait. On prie très bien dans les voitures. Quand les toilettes sont propres, dans les écoles, enfin, le mien était très propre au troisième étage, qu'est-ce que j'ai pu aller prier dans les toilettes de mon lycée? Voilà. On peut prier n'importe quand, n'importe où, de tout notre cœur. C'est une collaboration, c'est une obéissance et c'est une implication personnelle. Parce que quelque part, si j'attends que Dieu exécute sa promesse, voyez ? Non, ce n'est pas cette attitude-là que Dieu demande de nous. Seigneur, j'attends que tu exécutes ta promesse. Non, je continue à prier, je prie sur ta parole. Prier sans cesse. C'est un mode de vie. Et la prière, on vide son cœur. Le problème, pourquoi souvent les gens n'aiment pas prier, parce que il y a un vocabulaire de la prière. Seigneur, grand Dieu, ta ta ta. Bon, si c'est votre style, c'est ok, si ça reflète bien votre cœur. Mais c'est aussi parfois, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatiguée, il y a un tel et un tel qui me casse les pieds. On dit ce qu'on a sur le cœur. Et Dieu écoute. Et en général, il vous dit dans votre cœur, vous le sentez bien, je sais, j'ai vu, je sais. Je pense à toi. Voilà, c'est tout simple la prière. On vide son cœur. Évidemment, si on en fait un truc vachement officiel avec des grandes phrases, les Anglais en plus avec le thee et thou, j'ai essayé, ça m'est très difficile. Voilà, je pense que c'est l'expression du cœur. Il ne faut pas avoir peur, dire Seigneur, tu as promis. Alors maintenant, je suis avec toi. Je te fais confiance. Tu as promis la pluie, j'attends. Cette fois, il a dû envoyer son serviteur. Le pauvre. Pourquoi Dieu a fait ça? Cette fois, d'ailleurs, le gars, hein, je l'admire, hein, il a dû galoper en haut, aller voir, revenir voir Élie, retourner là-haut cette fois. Ça m'a fait penser à Samuel, vous vous souvenez? Trois fois aussi, il a fait le coup à Samuel. Ah! Il y a une raison, certainement. Peut-être vous pouvez y réfléchir. Six fois, il n'y avait rien à l'horizon. Mais il est sur la promesse de Dieu et il va continuer à prier. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait que le cœur d'Élie soit touché aussi, que le cœur du serviteur soit touché. La persévérance. Dieu leur apprend à être persévérant, il nous apprend à être persévérant. Ça, c'est un truc désagréable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais persévérer dans la difficulté, bleh. Mais Dieu nous apprend à être persévérant. Et il continue à prier, même s'il n'y a aucun signe d'exaucement. Alors, prenons modèle. Même s'il n'y a aucun signe d'exaucement, continuez à prier. Combien de mamans ont prié pour leurs enfants qui étaient dans le monde? Je pense à la maman d'Abraham Kiss, je ne sais pas si vous vous souvenez, la plupart n'étaient pas là, c'était un pasteur très prophétique qui est venu dans l'église pendant un temps, et il venait d'Afrique du Sud, et il a expliqué que sa maman priait pour lui, et lui, il faisait les boîtes de nuit, il buvait, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et sa mère, tous les soirs quand il rentrait, elle était en prière dans le sous-sol. En train de demander à Dieu que son fils revienne à Dieu. Et puis il s'est passé un miracle. Il a eu un de ses amis qui a été tué, qui est mort dans ses bras, et ça lui a fait un électrochoc. Il est revenu au Seigneur. Et quand il est rentré ce soir-là chez lui, sa mère était encore en train de prier. Elle a persévéré. Voilà. Persévérons dans la prière, même si c'est une promesse du Seigneur. Persévérons dans la prière, collaborons avec le Seigneur. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas très logique, c'est pas rationnel, c'est pas comme ça que moi j'aurais fait. Ben oui, mais il se trouve qu'on n'est pas Dieu, nous. Hein. C'est comme ça. Et la preuve en est, chez tous les hommes de Dieu, chez tous les gens qui ont fait des choses intéressantes de leur vie, que ce soit Müller, que ce soit Billy Graham, que ce soit... Peu importe, c'était des gens qui priaient. Pourtant, Dieu avait promis de nourrir ses orphelins. Il aurait pu dire, ben voilà, Seigneur, j'attends que tu me donnes à manger. Non, il priait avec son équipe. Bon, Müller a créé un orphelinat en 1800 et quelques, en Angleterre. Il priait. Donc, il n'y a pas de rationalité là-dedans. Ce n'est pas humain, mais ça nous rapproche de Dieu. Et je pense que c'est ça le but. Donc, finalement, la septième fois, il n'y avait qu'un petit nuage. Et j'aurais voulu accentuer ça, un tout petit nuage. Et vous savez à quoi ça m'a fait toujours penser? Alors, dans ma famille, on avait cette habitude de dire c'est le petit nuage d'Élie. Quand on voyait quelque chose qui changeait avec ma mère, on disait ah, c'est le petit nuage d'Élie. Parce que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Zacharie 4, 10. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Et il a vu le petit commencement. Un petit nuage, c'est bon. Dieu est en train de répondre. Et ça n'a pas manqué. Et beaucoup de grandes œuvres ont commencé très petites. La plus grande œuvre de Dieu a commencé dans une mangeoire. Rappelez-vous quand même. Avec des bergers, les gens exclus de la société. Puis avec 12 disciples pour transformer le monde, 12 gars qui n'avaient rien de spécial, et un traître au milieu d'eux. Donc ça fait 11 en fait. Eh bien, je pense à plusieurs choses que moi j'ai vues. Le réveil des tziganes en France, ça a commencé par un tract qui a été déposé dans une boîte aux lettres. Le réveil de Pentecôte, dont j'ai vécu la fin. ma mère a vu des choses extraordinaires et ça a commencé avec deux petites dames qui ont prié, elles aussi, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en France. Au Havre, dans un petit café sans alcool. Je pense à l'église de Mulhouse. Tout le monde parle de cette grande église de Mulhouse qui est super. Mais le pasteur qui vient de décéder, papa Peter Schmidt, il avait mal commencé, il avait été fichu à la porte de son église. Par quelqu'un que je connais en plus. Les cours Alpha, une grande œuvre. Ça a commencé par un avocat, Nicky Campbell, qui a pensé à faire un cours qui soit simple, à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est dans le monde entier. L'Armée du Salut, je pourrais en citer d'autres. Mais du Salut, ça a commencé par un groupe de gens qui se disaient il y a trop de gens dans les rues qui meurent de faim, qui meurent de maladie, qui s'alcoolisent, qui font le trottoir, etc. Il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Et même dans un pays laïque comme la France, ils sont encore reconnus, en ayant gardé leur nom, l'Armée du Salut. Élie, il a les yeux de la foi, sa prière est exaucée, il va prévenir Acab. Et là, il y a un dernier point qui est quand même bizarre, franchement. Mais j'ai eu un petit peu la réponse hier, en regardant le couronnement, bien sûr. Élie va courir devant le char du roi. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Acab jusqu'à l'entrée. 27 kilomètres, j'ai vu. Pourquoi il a fait ça? Ah, alors là, il y a plusieurs réponses possibles. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il a voulu montrer qu'il était contre Acab à cause de son idolâtrie. Mais il n'était pas contre lui en tant que roi. Et il a couru devant son char. Et hier, au couronnement, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le carrosse du roi et de sa femme, et puis il y avait deux personnes qui marchaient devant. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils font ceux-là à pied? Franchement, il y a une belle route à faire, puis il faut quand même marcher assez vite, au pas des chevaux, parce que c'était une tradition. Les rois se déplaçaient en carrosse, et en général, ils avaient, la Bible parle de 60 hommes pour Salomon, qui marchait devant le char du roi. Un de mes versets favoris, 60 hommes dont Dieu avait touché le cœur, etc. Enfin, très beau verset. 33 pour David, merci. Voilà, c'était une tradition, ça montrait que ces gens étaient au service du roi. Et je pense que quelque part, Élie, qui avait grondé le roi, qui l'avait vraiment lui donné des ordres, etc., a voulu montrer aussi que il espérait une repentance du peuple, il espérait une repentance d'Acab, il l'a plus ou moins eu. Il a marché devant le char du roi, il a couru devant le char du roi sur 27 kilomètres, tous les gens ont vu, le grand prophète, il est quand même soumis au roi. Il est quand même dans l'humilité devant le roi, même si en tant que représentant de Dieu, il a été très autoritaire avec le roi, Il lui a dit, c'est toi qui amènes la malédiction, etc. Mais il a bien voulu marcher, courir devant son char pour montrer qu'en tant qu'homme, il restait un sujet du roi. Je pense que Élie a travaillé son humilité là. Mais c'était important aussi pour le peuple, ce grand prophète. Il savait aussi quelle était sa place dans le royaume. Et ça nous montre aussi qui était Élie, un homme de la même nature que nous. Pour ne pas l'oublier, et on verra, je ne sais pas quand, mais on verra la suite, où il va vivre un moment de dépression. Et là, on va être sûr que c'est un homme de la même nature que nous. Mais il a fait des grandes choses parce qu'il a eu la foi. Et pour moi, le mot de cette année, c'est la collaboration avec Dieu. Comme Élie, il a collaboré jusque dans la prière. Même si on ne comprend pas pourquoi il a fallu qu'il prie comme ça. Mais il a collaboré avec Dieu. Seigneur, merci. Merci pour les modèles que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour le modèle d'Élie. Aide-nous, Seigneur, à te prier comme lui, il a prié, avec persévérance, sur ta promesse, mais quand même avec persévérance, avec humilité, en te respectant, et en étant soumis à toi, en collaborant aussi avec toi. Aide-nous, Seigneur, à collaborer avec toi, à faire comme disait Jésus, ce que nous voyons faire au Père. Seigneur, vraiment, nous voulons marcher avec toi pendant toute cette année qui est devant nous et qu'on puisse collaborer avec toi dans la prière, dans les actions, dans les paroles. Merci Seigneur. Amen.